par deux lourdes portes de métal entourées de chaînes. Puis il faut descendre un escalier étroit dont les marches ont été comme lissées au fil des années. Dans le mince couloir de pierre calcaire, l'atmosphère est moite et oppressante. Le jeune Abraham se dit qu'il fait plus chaud que ce qu'il imaginait, mais avec les courants d'air, il sent parfois des frissons sur sa nuque. Les caveaux se succèdent et soudain, l'adolescent s'arrête. À la lueur des lampes, il vient d'apercevoir quatre cercueils ouverts. Il regarde plus près. À l'intérieur, il y a des momies parfaitement conservées. Mais ce n'est pas tout. À l'un des corps, il manque les pieds et la main droite qui ont été tranchés. Les autres corps sont ceux d'une religieuse, d'une femme inconnue et d'un chevalier tellement grand que ses jambes ont dû être brisées pour le faire entrer dans le cercueil. L'image de ces momies fascine Abraham. Il ne peut détourner son regard. Le jeune homme reviendra souvent dans ce caveau. Sans s'en rendre compte, il vient de poser la première pierre d'un roman dont le personnage entrera dans la légende, le comte Dracula. Abraham Stoker naît le 8 novembre 1847 à Clontarf, un quartier du nord de Dublin. L'Irlande est alors en proie à la plus effroyable famine de son histoire, celle qu'on appellera la Grande Famine. Deux ans plus tôt, le mildiou, une maladie qui s'attaque aux feuilles des plantes, a détruit la quasi-totalité des champs de pommes de terre. Or, c'est la nourriture principale d'une grande partie de la population irlandaise. L'inaction et l'indifférence du gouvernement britannique, dont l'Irlande dépend, n'ont fait qu'empirer la situation. Les plus pauvres et les plus fragiles sont touchés à travers tout le pays. En 5 ans, la famine fait 1 million de victimes. Dans certaines régions, ce sont des familles entières qui meurent de faim. Pendant ce temps-là, le gouvernement britannique reste sourd aux protestations et continue d'exporter de la nourriture vers Londres. Même chez les Stoker, une famille de protestants plutôt aisés, trouver de quoi manger à sa faim n'est pas toujours facile. Abraham, surnommé Bram par ses proches, est le 3e enfant de la fratrie. Il a failli mourir à la naissance. Il est si chétif. Il souffre d'une maladie que les médecins ne parviennent pas à diagnostiquer et qui l'oblige à rester cloué au lit. Le temps est long dans sa jolie demeure située face à la mer. Mais en face d'Abraham, il y a une fenêtre. Elle devient son unique ouverture sur le monde, le cadre d'une scène de théâtre imaginaire où il peut laisser libre cours à son imagination nourrie par sa mère Charlotte. Celle-ci reste autant qu'elle le peut à son chevet. Pour l'occuper, elle lui raconte toutes sortes d'histoires. Elle est une conteuse hors pair, capable de donner vie aux plus insignifiants détails. Et oui, Charlotte Thornley est passionnée de littérature et de folklore. Mais dans le quartier, on la connaît surtout pour ses positions féministes. Elle n'a pas peur de critiquer la politique britannique et milite souvent en faveur d'une meilleure éducation pour les femmes irlandaises. Plus tard, elle n'hésitera pas à adresser une lettre personnelle à la reine Victoria pour défendre ses convictions. La vie est un combat et elle n'a pas l'intention de le cacher à son fils. Elle lui apprend avec quelle violence la famine décime les campagnes. Bram écoute aussi les récits effroyables de Charlotte sur l'épidémie de choléra de 1832 qui a fait des ravages en Irlande. Ce sont des récits de maladies, de morts, de fosses communes et de morts vivants enterrés par erreur qui se relèvent à la nuit tombée. Toutes ces histoires font forte impression sur l'enfant qui en tire un goût prononcé pour le gothique et le morbide, mais aussi pour les arts et la littérature. Mais son père ne l'entend pas de cette oreille. Il a d'autres ambitions pour son fils. Abraham Stoker sera fonctionnaire comme lui. Voilà la carrière qui l'attend. À l'âge de 16 ans, en 1864, les médecins d'Abraham Stoker n'en reviennent pas. Il s'est complètement remis de sa maladie infantile. C'est maintenant un jeune gaillard en pleine santé. Il entre donc au Trinity College, la prestigieuse université de Dublin, pour honorer le souhait de son père. Il s'y fait rapidement une très bonne réputation grâce à ses qualités athlétiques. Qui aurait pu prédire que cet enfant malingre deviendrait un solide joueur de rugby? 2 ans plus tard, Abraham accepte un emploi de fonctionnaire au château de Dublin. Mais cet emploi, c'est surtout pour contenter les ambitions paternelles. Ses véritables passions, il les assouvit à l'université où il continue de prendre des cours. Il se lie d'amitié avec un autre étudiant passionné comme lui de contes fantastiques et morbides. Si je vous dis son nom, vous ne serez pas surpris. Bram Stoker est l'ami d'Oscar Wilde, à qui l'on doit, entre autres, le portrait de Dorian Gray. Il fait également la rencontre de Sheridan Le Fanu. C'est un ancien étudiant devenu auteur réputé de romans gothiques. Et ça, ça lui parle beaucoup. Bram Stoker obtient son premier diplôme en 1870 et décide de pousser encore un peu ses études. Il est donc toujours employé de bureau, mais la passion de l'écriture l'anime. En 1871, il accepte de devenir critique bénévole pour le Dublin Evening Mail, un journal dont Sheridan Le Fanu est propriétaire. Ce dernier est d'ailleurs en train de finaliser son nouveau roman, Carmilla, l'histoire d'une femme séduite par une vampire. Pour l'époque, ce récit qui explore l'homosexualité est sulfureux et il va marquer Bram Stoker. C'est de là que lui viendra l'idée de trois femmes vampires, séductrices et lascives, présentes dans le château de Dracula au début du roman.
Toutes trois montraient des dents extrêmement blanches, qui brillaient comme des perles sur le rubis de leurs lèvres voluptueuses. Pourtant, quelque chose en elles me mettait mal à l'aise. Je les admirais et en même temps, elles m'épouvantaient.
Mais n'allons pas trop vite. En parallèle de ses études, de son travail de fonctionnaire et de ses critiques de théâtre donc, Bram Stoker s'essaye désormais à l'écriture de fiction. Ses histoires sont parfois publiées dans un journal, mais elles rencontrent encore un succès mitigé. Le père d'Abraham Stoker meurt en 1876. C'est un tournant pour le jeune homme qui n'est plus tenu de se plier à sa volonté. Il décide d'adopter définitivement le surnom de Bram et surtout, il abandonne son travail de fonctionnaire. Pourtant, rien ne se perd. Je vous le dis tout de suite, de cette première expérience professionnelle naîtra Jonathan Harker, l'un des personnages principaux de son roman Dracula. Quelques mois après la mort de son père, Bram Stoker publie une critique dithyrambique d'une représentation de Hamlet, la pièce de Shakespeare, interprétée par un certain Henry Irving. Irving est l'un des acteurs les plus en vogue du moment et surtout, c'est l'une des idoles de Bram Stoker, qui est évidemment aussi un grand amateur de théâtre. Les deux hommes se lient d'amitié et cette rencontre va changer la vie de Bram Stoker. Sur le plan sentimental, c'est à l'âge de 31 ans que Bram Stoker fait la connaissance d'une certaine Florence Balcombe. La jeune femme a 20 ans, un port altier, des yeux bleu-gris et des cheveux châtains qui tirent vers le blond sous les rayons du soleil. Elle est intelligente et on la considère aussi comme l'une des plus belles femmes de Dublin. Depuis 2 ans, elle est courtisée par Oscar Wilde, mais le poète est trop souvent absent. Bram Stoker et Florence Balcombe tombent amoureux et finissent par se fiancer. Lorsqu'il l'apprend, Oscar Wilde ne cache pas sa déception. Pire, il est piqué au vif et il se brouille avec le couple. Quelques semaines avant le mariage, l'acteur Henry Irving fait à Bram Stoker une proposition qu'il ne peut pas refuser, gérer le Lyceum Theatre à Londres. C'est un théâtre prestigieux qui lui offre de belles opportunités. La famille de Stoker est totalement contre cette idée, mais il s'en fiche. Bram plie bagages et part s'installer dans la capitale anglaise avec sa femme. Si le quotidien de Bram Stoker était jusqu'ici bien occupé, ce n'est rien en comparaison de sa vie à Londres. Florence tombe enceinte rapidement et donne naissance à l'unique fils du couple, Irving Noel. Mais surtout, tout va très vite dans la capitale victorienne. Henry Irving est un employeur exigeant. En plus de la gestion quotidienne du théâtre, Stoker prend en charge la carrière d'Irving et part régulièrement en tournée à l'étranger. Mais il est doué pour ce travail. Surtout, il peut assouvir sa passion pour les arts et le voyage. En 1883, Bram Stoker part pour la première fois aux États-Unis. Sa fonction lui permet de rencontrer les personnalités les plus connues du moment. Il serre la main de l'écrivain Mark Twain, du président Theodore Roosevelt, de Buffalo Bill ou encore de son idole, le grand poète Walt Whitman. Bon, entre nous, Bram Stoker se servira plus tard de ses expériences en Amérique pour créer le personnage de Quincy Jones, un cow-boy au grand cœur déterminé à en finir avec Dracula. À Londres, le statut social de Stoker a de quoi en faire rougir plus d'un. Il côtoie la haute société et reçoit les plus grandes personnalités de la littérature, parmi lesquelles Sir Arthur Conan Doyle, l'auteur de Sherlock Holmes. Partout, on dit que Stoker est un homme jovial, aimable, travailleur. Pourtant, au fond, bien caché, sa fascination pour le macabre ne l'a pas quitté. Et c'est à ce moment-là qu'une série de meurtres est signalée en plein cœur de Londres. Nous sommes en 1888. À l'opposé du quartier huppé de Chelsea, où réside Bram Stoker, se trouve le district de Whitechapel. Ce quartier de l'East End est connu pour être un véritable taudis, un repère de criminels. Dans les rues boueuses chargées d'une odeur fétide, on ne compte plus les vols. La violence est partout, et quand la nuit tombe, les alcooliques et les prostituées se partagent les rues. C'est dans ce quartier malfamé qu'à la fin de l'été, on retrouve le corps de Marianne Nichols. Ses blessures témoignent d'un meurtre violent. Sa gorge a été tranchée de deux coups de couteau et son abdomen profondément entaillé. Marianne Nichols est la première victime de celui que la presse surnommera l'assassin de Whitechapel. Et vous le connaissez sans doute mieux sous le nom de Jack l'Éventreur. En moins de deux mois, quatre autres femmes sont tuées. La violence des crimes et la couverture médiatique inédite créent l'émoi dans toute la ville de Londres. Bram Stoker et la haute société n'y échappent pas. Cette série de meurtres va changer le journalisme de faits divers, mais aussi certains pans de la littérature britannique. Et alors que le quotidien reprend sa place, Stoker reste marqué. Deux ans plus tard, il prend quelques jours de repos et se rend dans le nord de l'Angleterre. C'est à ce moment-là qu'il débarque pour la première fois à Whitby. À première vue, cette petite ville portuaire du Yorkshire n'a rien d'exceptionnel et pourtant, elle fait forte impression sur Stoker. Il est frappé par la beauté du lieu, les 199 marches qui mènent au port et l'abbaye majestueuse qui domine la ville du haut de la colline. Et là, il ne résiste pas à l'envie de faire un tour à la bibliothèque. Après tout, c'est un homme de lettres. Au gré de ses recherches, il tombe sur une histoire qui le fascine immédiatement. Cette histoire, c'est celle de deux princes de Valachie, l'actuelle Roumanie, Vlad III et son père, Vlad II. Le père est surnommé le Dragon, un nom qu'il doit au fait d'avoir été décoré de l'Ordre du Dragon. Or, dans la langue de l'époque, Dragon se dit Dracul. Le fils de Vlad III est donc surnommé Dracula, le fils du dragon. Mais il est surtout connu sous un autre nom, l'Empaleur. De sa légende, l'histoire retient surtout qu'il prenait plaisir à torturer ses victimes. Quand quelqu'un osait le contredire, il pouvait le faire brûler, l'ébouillanter, le mutiler ou l'aveugler. Il n'hésitait pas non plus à décapiter, étrangler et bien sûr empaler ses victimes. En tant qu'amateur d'histoires morbides, Stoker est fasciné. Il dévore, si vous me passez l'expression, tous les livres à son sujet et prend des notes. On dit souvent que, pour écrire Dracula, Stoker s'est basé sur la vie de Vlad III. D'après les recherches de la professeure Elizabeth Miller, spécialiste du roman, ce n'est qu'en partie vrai. De l'empaleur, Stoker retient surtout son nom, Dracula, sa cruauté et sa soif de sang. Ses autres inspirations lui viennent d'ailleurs, mais ça, vous le savez déjà. Le jour suivant, Stoker poursuit son exploration de Whitby. Il se sent bien. Assis sur un banc face au port, il regarde le défilé des bateaux. Le temps est changeant, le vent souffle et les embruns viennent toucher son visage. Dans le soleil couchant, la ville est dominée par les ruines de l'abbaye au loin sur la colline. L'atmosphère est propice au rêve. Il repense à ce qu'il a lu dans la bibliothèque. Soudain, un grand chien noir attire son regard et son esprit se met à travailler à nouveau. Il sent qu'il tient définitivement quelque chose. Bram Stoker ne passe que peu de temps dans le Yorkshire, mais la région laisse une empreinte indélébile à tel point que c'est là qu'il choisit de développer une partie de son histoire. Dans le roman, c'est au port de Whitby que s'échoue le Déméter, ce vaisseau fantôme dont l'équipage a été décimé par Dracula. C'est aussi là que débarque le vampire sous la forme d'un gros chien noir. Et c'est sur ce petit banc, non loin du port, qu'il séduit la jeune Lucy, sa première victime.
Lorsque je fus proche du sommet, je vis enfin le banc et la silhouette blanche. car j'étais si proche que je pouvais tout distinguer en dépit de l'ombre. Sans le moindre doute, quelque chose de long et de noir se penchait sur la silhouette blanche. Épouvanté, j'appelais Lucie. Quelque chose releva la tête, et d'où je me trouvais, je pus distinguer un visage pâle et des yeux injectés de sang.
Mais pour l'instant, l'histoire n'en est qu'à ses balbutiements. Stoker laisse ses idées se balader dans son esprit. Il n'ose pas encore les regarder en face de peur qu'elles lui échappent. Du récit qui commence à germer, il ne dit donc rien à personne. En tant que membre de la bonne société londonienne, il tient à garder l'image d'un personnage propre sur lui. C'est un homme d'apparence guindée, dont seuls les cheveux roux et le léger accent irlandais trahissent les origines. Il revient à Londres et reprend son quotidien. Mais à peine quelques semaines après son retour, il fait la rencontre d'un professeur venu de Hongrie. Les coïncidences parfois dans la vie. C'est plus précisément dans une soirée mondaine que Bram Stoker croise la route de Armin van Berry. Ce géographe est un spécialiste de l'Orient et un membre éminent de l'Académie hongroise des sciences. Surtout, il partage avec Stoker une certaine passion pour les histoires sombres. Il connaît la légende noire de Vlad III l'Empaleur et donne quelques indications à Stoker pour continuer ses recherches. Armin van Berry a aussi la particularité de très bien connaître la région des Carpates et les légendes de la Transylvanie. Les deux hommes se lient d'amitié. Stoker est tellement reconnaissant qu'il lui fera même un clin d'œil dans son roman. Son nom est cité par le professeur Van Helsing lui-même. Bram Stoker va passer 5 ans à élargir ses recherches. Il ne s'est jamais rendu dans les Carpates, mais sa description de la région et de son folklore est étonnamment précise. Bram Stoker ne commence l'écriture de son roman qu'en 1895, 5 ans après sa première venue à Whitby et sa rencontre avec Armin van Berry. Il écrit dans le plus grand secret, armé de toutes ses notes et de son expérience. Et Dracula est publié en 1897. L'histoire est atypique, mais les critiques des journaux sont globalement positives et le livre rencontre un certain succès. Pourtant, dans la haute société londonienne, cette réussite étonne. Dans les quartiers huppés, on ne comprend pas bien comment l'aimable Bram Stoker a pu accoucher d'une histoire pareille. Pour les plus polis, le récit est au mieux interesting. Dans certaines bouches, on n'hésite pas à le qualifier de ridicule. Malgré l'affection qu'il porte à Stoker, l'acteur Henry Irving, son ancien patron au Lyceum Theatre, ne manque pas lui-même d'exprimer sa surprise, de même qu'une certaine aversion pour l'histoire du roman. À l'inverse, après la lecture du récit, Oscar Wilde envoie un courrier enthousiaste à son ami avec qui il reprend contact, pas rancunier finalement. Dans cette lettre, il décrit Dracula comme l'un des meilleurs romans du XXe siècle. Ces mots touchent particulièrement Stoker, au point qu'il décide de rendre visite à Oscar Wilde. Ce dernier s'est exilé volontairement à Paris après sa sortie de prison. Condamné pour avoir affiché son homosexualité, il ne lui reste guère de soutien à Londres ou à Paris. Bram Stoker fait partie de ceux qui sont restés et les deux hommes, autrefois rivaux, restent amis jusqu'à la mort de Wilde en 1900. C'est sans doute lors d'un de ses séjours à Paris que Stoker contracte la syphilis qui finira par lui être fatale. Il meurt le 20 avril 1912 des suites d'une ataxie locomotrice, l'une des conséquences à long terme de cette maladie. Mais dans les journaux, sa mort est largement occultée par le naufrage du Titanic survenu une semaine plus tôt. Si Dracula fut un succès incontestable du vivant de Bram Stoker, ce n'est rien en comparaison de ce que le personnage devient après la mort de son auteur. Florence Balcombe, la femme de Stoker, veille avec attention sur l'héritage littéraire de son mari. Après sa mort, elle publie un recueil de nouvelles à titre posthume, dont un chapitre inédit de Dracula. En 1922, 10 ans après la mort de son mari, elle s'oppose farouchement à la sortie de Nosferatu, une adaptation cinématographique très largement inspirée de Dracula. À la place, elle donne son accord pour une adaptation théâtrale en Angleterre qui connaît le succès. Aux États-Unis, la pièce est un véritable triomphe et bat tous les records pendant près de 3 ans. Dracula est aujourd'hui un classique de la littérature, au point qu'en 120 ans, il n'a jamais cessé d'être édité. La famille de Bram Stoker continue de veiller sur l'héritage de leur ancêtre. En 2009, l'arrière-petit-neveu de Bram Stoker publia Dracula l'Immortel, suivi de Dracula les Origines en 2018. C'est aussi grâce à la famille de l'auteur que Dublin célèbre le Bram Stoker Festival tous les ans au mois d'octobre. Aujourd'hui, le mythe du vampire est partout. Il a changé, s'est diversifié grâce au travail d'autres auteurs, acteurs, scénaristes et illustrateurs. Mais de tous les vampires, le Dracula de Bram Stoker reste le maître incontesté, celui qui fait naître des frissons dans le cou de ses lecteurs. Les mêmes frissons que ressentit son auteur bien des années plus tôt dans un petit caveau de Dublin.
Au cœur de l'histoire, sur Europe 1.
De 15h à 16h, Virginie Giraud.
Vous écoutez toujours Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Après Frankenstein et Dracula, j'ai le plaisir de recevoir dans notre studio un légiste qu'on adore au cœur de l'histoire. C'est le docteur Philippe Charlier qui vient nous parler des vrais vampires.
Bonjour Virginie.
Vous êtes déjà venu au cœur de l'histoire et c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Et pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, je rappelle que vous êtes médecin légiste, anthropologue et archéologue. Et en votre compagnie, on va décortiquer cette figure du vampire qui est passionnante et qui finalement nous en apprend beaucoup sur les différentes sociétés. Alors commençons par la base, la définition. Est-ce qu'un vampire au XVIIIe siècle, c'est la même chose que pour nous ?
Alors, c'est fondamentalement la même chose, mais esthétiquement, c'est complètement différent. Un vampire, c'est ce qu'on appelle un revenant en corps, c'est-à-dire c'est un mauvais mort, un non-mort, un mort qui ne se tient pas tranquille, un mort qui ressort de sa sépulture, mais plutôt qu'un être beau, élégant, fringant, sentant bon et dont on a juste envie de se faire croquer le cou par un tel individu avec un fort potentiel érotique, comme dirait Fuenkinos, eh bien là, c'est un peu différent, c'est une sorte de sac de sang ayant plus ou moins une figure humaine et qui est vraiment issu de la plèbe, qui est on dirait à l'époque un cutéreux ou autre chose, donc c'est qui sent mauvais au possible, et c'est vraiment l'opposé sur le plan esthétique. Mais fondamentalement, oui, c'est un non-mort qui est une sorte d'outre rempli de sang et qui n'a pas un grand esprit, il ne brille pas par son intellect, loin s'en faut.
On est loin d'entretien avec un vampire. Donc revenons à cette première moitié du 18e siècle où il y a une épidémie de vampirisme. Mais comment peut-on parler d'épidémie ?
C'est une épidémie au sens où il y a une multiplication exponentielle du nombre de cas de vampires rapportés tantôt par les voyageurs, tantôt par les commerçants, tantôt par les ecclésiastiques, tantôt par les chroniques historiques ou littéraires. C'est une sorte de mode. On commence à en parler vraiment de plus en plus. Ça naît dans l'Europe de l'Est, dans l'Europe centrale, un tout petit peu dans l'Europe du Sud, puisque ça descend en Grèce, par exemple, et dans le monde ottoman. Et on est vraiment dans une épidémie au sens où tout le monde commence à en parler, tout le monde à être contaminé par ce phénomène du vampirisme. Jusqu'à Don Calmet, qui, comme vous l'avez dit, est abbé de Sénone, on est en Lorraine, et c'est un homme qui est très respectable. Vraiment, c'est un érudit, un humaniste. Il a déjà publié une volumineuse histoire de la Lorraine qui est vraiment quelque chose de respectable. Et cet homme, eh bien, va se pencher sur ce cas de vampirisme, sur cette épidémie. Il va se dire, bon, là, il y a un truc à creuser. Il n'y a pas de fumée sans feu. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ceci ?
Et justement, vous l'avez dit, c'est un abbé lorrain. Pourquoi il s'intéresse particulièrement à ce phénomène ? Est-ce qu'il y a des vampires qui sont arrivés jusqu'en France à ce moment-là ?
Oui, il y en a. Alors, il y en a quelques-uns en Lorraine, en l'occurrence, dans l'Alsace actuelle. Il y en a également. En fait, c'est à la confrontation entre les mondes que surviennent les vampires. C'est-à-dire entre les mondes protestants et catholiques, entre le monde chrétien, on va dire, d'Orient et chrétien d'Occident. Le monde également entre les musulmans, les ottomans en l'occurrence, les turcs, et le monde européen. Donc c'est à cette frontière à la fois métaphysique mais également géographique que surviennent les différents monstres, entre guillemets, comme dans l'Antiquité gréco-romaine, et là ce sont d'autres types de monstres qui sont les vampires. Le vampire, c'est du fantasme à l'état pur.
Vous l'avez dit, le vampire au XVIIIe siècle, c'est une outre gorgée de sang, dégoûtante, un état entre le mort et le vivant. Venons-en à l'aspect médico-légal, puisque c'est votre spécialité. Qu'est-ce qui justifie d'un point de vue scientifique qu'on ait pu confondre un mort, un cadavre plein de sang avec un vampire ?
Quand au bout de plusieurs jours ou semaines, on exhume les corps de ceux qu'on suppose être vampires et qu'on les trouve dans un état de putréfaction avancée, eh bien les signes de la putréfaction avancée sont mal interprétés par les populations locales. Et y compris même parfois par des médecins qui ne sont pas habitués à travailler sur des corps dans un tel état de conservation. Par exemple, le sang qui évidemment a précipité après la mort, il ne coagule pas, il précipite, eh bien se met à se reliquéfier. Eh bien, cette liquéfaction est mal interprétée. On dit le sang est toujours liquide, donc la personne est toujours vivante. Il y a même des gaz de putréfaction. Et quand on ouvre les veines ou les artères de cadavres en état de putréfaction avancée, ça fait pop, 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 pop. Ça fait des petits pop, pop, comme ça, parce que c'est le gaz de putréfaction qui sort. Et évidemment, cet aspect-là, on comprend pas. On dit, mais le sang est encore pulsatile. Et on voit même la circulation veineuse, on appelle ça une circulation veineuse posthume, le sang qui circule dans des veines sous-cutanées qui sont dilatées, extrêmement bien visible par le gaz de putréfaction, une couleur un peu vermeil, verdâtre, parfois un peu bordeaux, assez joli. Hein. C'est vraiment une palette extrêmement, extrêmement belle. Mais par contre, les odeurs, elles sont pas, ne vont pas avec.
Voilà. Heureusement, on n'a pas l'odorama au cœur de l'histoire, donc on va passer sur les odeurs de putréfaction. Mais alors, justement, à cette époque, on fait des rituels pour contrer les vampires, pour se prémunir des mauvais sorts. Comment ça se passe? Est-ce que c'est la goutte d'ail, le pieu, comme dans les films?
Non, la gousse d'ail, non, pas encore. On n'utilise pas encore les fortes odeurs comme répulsifs, entre guillemets. En revanche, le pieu, oui. Le pieu a deux... Le pieu, soit en bois, soit un pieu métallique. Ça a d'abord une vocation qui est celle de clouer le vampire dans son tombeau. C'est-à-dire, on le fixe vraiment dans sa sépulture et il est comme un tableau qu'on cloue au mur. Ça ne doit pas bouger. Et c'est vraiment la vocation première. Il y a ensuite ce passage métaphorique du pieu dans le cœur, où cette fois-ci, il s'agit de tuer un organe qu'on suppose être encore vital, le détruire physiquement. On peut également extraire le cœur, le carboniser, et le mettre ensuite dans la farine de pain de messe, là c'est le rituel orthodoxe en l'occurrence, ou encore le mettre dans une tasse avec du vin de messe qu'on va faire boire à toute l'assemblée. L'idée étant à nouveau donc d'annihiler la force négative du vampire par la force positive du vin de messe, le sang du Christ, évidemment, qui va détruire toute charge néfaste, et puis ensuite partager un tout petit peu de ceci dans la communauté chrétienne. L'idée étant du coup de fragmenter le vampire, et ainsi il n'a pas de tombeau, et le tombeau, si on peut dire, du vampire, c'est un peu chacun de nous. L'image est très belle, je trouve.
Est-ce qu'il y a des bons candidats au vampirisme? Plus d'hommes, plus de femmes, l'étranger?
Alors, l'étranger, oui, surtout quand il est d'une autre religion, surtout quand il est inculte, surtout quand il est paysan, ou on va dire d'une basse extraction socio-économique, quand il meurt d'une mort violente également, quand il meurt en maudissant quelqu'un, en disant « je viendrai te hanter dans ta mort », oui, là forcément, c'est ascenseur pour le vampirisme. C'est « highway to hell ». Et en l'occurrence, ces morts brutales, ces morts violentes sont vraiment quelque chose qui facilite, pas forcément une véritable vampirisation, mais en tout cas une vampirisation sociale.
Vous l'avez un peu dit, cette épidémie de vampirisme commence notamment en Europe centrale, en Europe de l'Est. Est-ce qu'il y a un contexte historique particulier qui facilite l'émergence de ce fantasme à cet endroit-là?
Oui, il y a des guerres qui se succèdent, il y a des épisodes de disette, avec du coup une malnutrition, une dénutrition. Donc on est dans une zone géographique qui est une confrontation entre deux mondes différents, avec des difficultés de vie et de survie extrêmement intenses. On enterre également un peu à la va-vite, c'est notamment dans ces contextes de guerre ou d'épidémie, et on enterre probablement des individus qui sont toujours vivants et qui du coup vont laisser des traces sonores de leur enfouissement. Ils vont essayer de sortir tout simplement de leur tombeau pendant quelques heures, je ne dirais pas quelques jours, parce qu'au bout d'un certain temps, malheureusement, on finit par mourir.
Vous m'avez dit, on tient 5 heures dans un cercueil, c'est
oui,
ça?
Oui, 5-6 heures dans un cercueil. Moi, je n'ai pas tenu plus d'une heure 26. Parce que
vous avez fait l'expérience, hein, parce que là, je sais que les auditeurs sont en train de bugger comme je l'ai fait la première fois que vous me l'avez dit.
Oui, j'ai voulu faire l'expérience pour connaître, sauf que moi, c'est différent. Moi, je savais qu'on allait me sortir, c'est différent. Mais je voulais, en tout cas, oui, ressentir un tout petit peu ça, au moins de mon vivant.
Donc, si je résume, le vampire, c'est une métaphore sociale, c'est le bouc émissaire, c'est bien ça?
C'est le bouc émissaire, alors vraiment pas sexy hein, à l'époque, c'est le bouc émissaire, c'est lui qui va cristalliser, qui va centraliser cette peur panique d'une population autour d'un autour d'un cadavre, autour d'un mauvais mort. C'est lui qui va, servir de bouc émissaire post-mortem.
Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, le vampire du XVIIIe siècle n'est pas précisément glamour. C'est un sac de sang assez peu ragoûtant. Et puis finalement, dans les années 90, avec le Dracula de Coppola, moi je me souviens de Monica Bellucci en Ghoul, c'est quand même à frémir de plaisir.
On s'en souvient tous.
Oui, évidemment. Entretien avec...
Gary Oldman est pas mal aussi non plus.
Tout à fait. Ah non, mais le casting est sublime. Mais je pense aussi à Entretien avec un vampire, avec Brad Pitt et Tom Cruise quand même, le duo d'enfer. Et puis pour nous, notre génération, évidemment, Buffy contre les vampires. Et puis pour les plus jeunes, Twilight. Comment on est arrivé finalement aux vampires érotiques ?
On y est arrivé au 19e siècle, sur un détail bien particulier qui est celui de la morsure au niveau du cou. C'est Polidori, par exemple, qui va écrire le vampire en même temps que Bram Stoker va pondre, si je peux dire, Dracula et que Mary Shelley va nous faire Frankenstein, etc. On est dans cette période où des figures hyper esthétiques d'individus qui normalement devraient être monstrueuses, eh bien, surgissent. Et c'est là-dessus qu'ensuite ça va proliférer. Autant les momies ont mal pris le virage romantique et sont toujours des êtres un peu décérébrés dans leurs bandelettes qui puent, autant les vampires, eux, qui ont un peu les mêmes fondamentaux, vont devenir hyper érotiques. Et en fait, on n'a qu'une envie, c'est de se faire sucer par un vampire et mordre au niveau du cou.
Il y a beaucoup de contes érotiques sur le sujet, donc on va clore là-dessus. Et je rappelle pour nos auditeurs que le traité sur les apparitions et les vampires de Don Augustin Calmet est présenté et édité par vous, Philippe Charlier, et qu'on le trouve aux éditions du Cerf. Au cœur de l'histoire, c'est terminé pour aujourd'hui, mais je vous retrouve dès samedi prochain pour une émission consacrée aux procès, ceux de Galilée, de Jeanne d'Arc et de Baudelaire. Mais d'ici là, vous savez qu'Au cœur de l'histoire sort en podcast avant d'arriver sur les ondes. Et il y a 5 récits inédits et gratuits chaque semaine sur votre plateforme d'écoute préférée. Par exemple, cette semaine, je vous raconte Les Trois Glorieuses, cette réplique de la Révolution française qui va mettre fin à la restauration des rois Bourbons en 1830.
L'ANUS poursuit dans un instant avec la libre antenne d'Olivier Delacroix en nouvelle diffusion. C'est votre espace de liberté où vous pouvez venir vous confier, témoigner, parler de vos expériences, de vos choix de vie. Voilà, 01 80 20 39 21, c'est le numéro que vous composez 7 jours sur 7. Et chaque nuit, on se replonge dans quelques-uns de vos témoignages et on le fera juste après Earth, Wind and Fire. Voici Boogie Wonderland sur Europe 1.
formidable Boogie Wonderland et on ne s'en lasse pas, Earth, Wind and Fire à l'instant sur Europe 1. Place à la libre antenne, vous le savez, la nuit on aime à se replonger dans quelques-unes de vos interventions. On va donc retrouver Olivier Delacroix, auprès de qui vous pouvez vous confier du lundi au jeudi de 22h à 1h du matin au 01 80 20 39 21.
La libre antenne d'Europe 1. Olivier Delacroix accompagne vos nuits.
Bonsoir Nathalie.
Bonsoir Olivier.
D'où nous appelez-vous et quel âge avez-vous, Nathalie?
Alors, je vous appelle de Pau et j'ai 58 ans.
De quoi voulez-vous me parler, Nathalie?
Eh bien, je voulais vous parler d'un problème que j'ai et qui entraîne d'autres problèmes dans ma vie. C'est-à-dire que depuis 4 ans, j'ai perdu l'équilibre. C'est-à-dire que je ne marche plus. Alors, ça a commencé en 2018. J'ai été voir un ORL et qui m'a détecté des cristaux dans l'oreille. Donc, il a fait son boulot. Et pendant 2 ans, ça a été, j'ai repris mon équilibre. Enfin, ça a duré 1 an avant que je repuisse marcher normalement. Et puis, 1 an après, patatras. Et là, je ne marche plus du tout.
Ah oui, carrément. Donc, ouais. Mais à cause de ces cristaux, vous pensez ?
Eh bien, alors je suis retournée voir donc l'ORL et qui m'a refait un examen et qui m'a donc affirmé donc que ce n'était plus les cristaux, c'était neurologique.
Neurologique. Ah oui, donc plus grave quand même, plus embêtant.
Voilà. Plus bah, oui. Alors oui. Embêtant, oui. Alors donc je suis allée voir un neurologue. Et qui m'a fait des examens possibles et imaginables. Et il a fait donc un compte-rendu à mon généraliste. Et il m'a donc demandé de faire une IRM. Suite à cela, je suis allée voir mon généraliste. J'en ai discuté avec lui. Il a lu le compte-rendu du neurologue. Et suite à ce compte-rendu, il a constaté que je n'avais aucune maladie neurogénérative, c'est comme ça qu'on dit, je crois. Ni tumeur, ni rien. Et qu'en fait, il pensait que j'avais des neurones qui avaient grillé. Et contre ça, il n'y a rien à faire.
Rien à faire du tout ?
Non, il n'y a pas de médoc. Alors, mon dernier espoir, c'est la kinésie vestibulaire.
C'est quoi ça ?
Eh bien, je me suis un petit peu. Ben c'est un kiné qui réapprend à marcher.
D'accord. Donc vous avez quand même les jambes qui marchent, quoi, en fait.
C'est-à-dire que je vis depuis 4 ans en. Vous avez fait du bateau ?
Moi ?
Oui.
Oui.
De la voile, du.
Oui.
Ben, je suis tout le temps comme ça. Je tangue.
D'accord, ok. Cet effet de tanguer, en fait.
Tout
le temps. Oh là là, mon Dieu, ça doit être...
Alors, je ne peux pas marcher toute seule. Je ne peux pas prendre le bus. Je ne peux plus rien faire. Plus rien. Je me suis renseignée auprès du CECAS pour savoir s'il y avait un moyen de pouvoir me déplacer, de pouvoir m'amener voir les docteurs. Rien. 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 Je suis tout seul. Je suis... voilà. Voilà. Alors, je me déplace en taxi. Tout le temps. Et je suis au RSA. Et ça me coûte une fortune.
Voilà. Je veux bien vous croire.
Alors, je ne prends pas de médicaments. Je ne dors pas, hein, parce que je suis tout le temps angoissée. Parce que j'ai peur de tomber tout le temps. Quand je fais le ménage. Quand je me lave. Enfin, tout geste, pour moi, est très, très compliqué, parce que des fois, j'oublie. Vous voyez ? J'oublie. Et je tombe. Voilà.
Oui.
C'est très difficile.
Je veux bien vous croire. Donc, la vie a totalement changé.
Oui, depuis 4 ans, oui. 4 ans. Ouais.
Et Est-ce qu'il y a un espoir que ça s'améliore?
Eh bien, écoutez, ma dernière chance, c'est le kiné.
Oui.
Et après cela, eh bien, si ça ne fonctionne pas, ben, je ne sais pas. Avant, je travaillais. Je sortais. Voilà.
C'est-à-dire?
Eh bien, j'avais ma vie.
Oui, vous aviez votre vie, et oui, j'ai bien compris que depuis, ça s'était complètement arrêté. Bah, de toute façon, ça a totalement fait balancer, basculer votre
oui.
vie, tout ça.
Tout à fait. Tout à fait. Alors, je n'ai pas permis. Donc, voilà. Je connais, j'ai un ami, j'ai un compagnon. Et suite à ça, les relations se sont dégradées. Parce que ils me considèrent un peu comme une handicapée.
Ben oui, c'est oui. Mais vous sentez que
ce que je suis malgré moi.
Pour l'instant.
Oui.
C'est-à-dire que en fait, on ne vous a pas donné l'espoir que ça puisse se s'arranger un minimum quand même.
Je vous dis le kiné, et si le kiné fonctionne pas, je ne sais pas. Non, le neurologue, non, il n'y a rien.
Oui.
Non. Non, non. C'est comme ça.
Et en fait, on n'a pas pu vous expliquer non plus l'origine de...
Ah ben, quand ça grille... Non, ils ne m'ont pas dit pourquoi ça grillait, mais ça grillait. Alors, c'est vrai, peut-être que les nerfs, je suis quelqu'un d'extrêmement nerveux. Je ne sais pas. Je ne bois pas. Enfin, je ne bois pas. De temps en temps. Mon seul vice, c'est la cigarette. Je ne prends pas de médicaments. Voilà.
Oui. Et vous aviez plutôt une vie saine, en plus?
Je ne suis pas quelqu'un de sportif, mais comme je n'avais pas de voiture, j'ai passé ma vie à marcher.
Oui.
J'ai fait du bateau, je faisais de la voile, je marchais, je courais. Voilà.
Oui.
Normal, quoi. Normal. Normal. Et maintenant, c'est fichu.
Oui, c'est vraiment pas enfin c'est très très injuste. Très injuste.
Oui, c'est un enfin écoutez, il y a plus malheureux que moi, je le sais très bien. Il y a pire que moi. C'est pour ça que je ne m'effondre pas tous les jours. Parce que quand j'entends votre émission, je me dis des fois pouf. J'ai quand même la chance d'être en bonne santé malgré tout. Parce qu'on m'a fait toutes les analyses de sang possibles et inimaginables. Pour savoir... Enfin, bon, bref. J'ai au moins ça. Mais ne plus marcher, c'est...
Bah oui, non, mais ne plus marcher, c'est terrible.
C'est horrible.
Bien sûr que c'est horrible. Vous savez, j'ai tourné avec deux jeunes tétraplégiques dernièrement. Et je peux vous dire que c'est pas la joie, quoi.
Ils sont
très forts. Ils sont très forts. Mais
Ah oui, ils sont certainement beaucoup plus forts que moi.
Oui,
beaucoup plus forts que moi.
Ils affrontent, c'est clair. Ils affrontent, c'est-à-dire que voilà, ils ne veulent pas que ça soit une fin en soi, que ça soit quelque chose de voilà qui mette fin à leur existence.
Bien sûr. Mais moi, je suis bien obligée d'admettre que si le kiné ne fonctionne pas, ma vie serait fichue. Parce que je n'ai plus d'amis, je ne peux plus sortir, je ne peux rien faire. Ma vie sociale, que je fasse. Rien.
Vous aviez une vie sociale très développée avant?
Ah oui, bien sûr.
Ouais.
Je travaillais dans la communication, je travaillais dans l'événementiel. Plus rien. Et puis, vous savez, les gens, au bout d'un moment, ils en ont marre.
Et ils vous lâchent, les gens, c'est ce que vous voulez dire?
Oui. Tout le monde m'a lâché.
D'accord, tout le monde, carrément.
Oui, carrément. Il me reste une amie. Et qui elle m'aide comme elle peut.
Oui.
Mais comme elle n'a pas la voiture non plus, mais elle m'aide à sa façon. Elle va me chercher mon pain. Elle m'aide à aller chercher une cigarette. Mais prendre le bus, je ne peux pas. Parce que j'ai peur de tomber. Et ça, je ne veux pas lui infliger.
Mm-hmm.
Parce que ça, je ne veux pas lui faire supporter ça. Ça me dit, on va en bus peut-être de Chine, non? Parce que si je tombe, non. Non. Non, non. Voilà.
Oui. Et les médecins ne vous donnent pas plus que cela d'espoir?
Non. Non, c'est comme ça. Je vous dis, Olivier, si le kiné ne fonctionne pas...
Si, pardon?
Si le kiné ne fonctionne pas... Voilà.
Ouais, non, mais je comprends.
Et là où j'étais quand même très ennuyée, c'est que je pensais qu'au moins la mairie enfin, aurait pu, comment dirais-je, avoir une aide, parce que je sais que dans certaines communes, ils ont des navettes, des choses comme ça, qui déplacent les personnes qui sont ou en fauteuil roulant, ou personnes âgées, ou aveugles, des choses comme ça, vous voyez. Mais à Pau, il n'y a rien. Rien. Que dalle.
À Pau, il n'y a rien, c'est incroyable.
Rien, c'est incroyable. C'est incroyable. Alors, de ce fait, bon, ben... je ne sais pas quoi faire.
Non, mais je comprends que ce soit compliqué pour vous, vraiment.
Je ne sais plus quoi faire. Je me vois mal aller à une instance sociale en taxi. Ouf. Non. Ce n'est pas question. Bon, voilà.
Oui.
Je reste comme ça.
Je ne sais pas trop quoi vous dire à part vous.
Mais je
vous,
sais.
Vous voyez, allez voir les Instagram de Martin, de Mathias. Ah, vous n'avez pas Instagram?
Non, non.
C'est dommage parce que vous verriez vraiment. Mais YouTube, vous avez YouTube?
Oui, bien sûr, oui.
Bon, bah, essayez de trouver Martin, tétraplégique, et Mathias, tétraplégique. Et je vous jure que vous allez voir les vidéos de ces mômes, et ça va vous inspirer, ça va vous... Vous allez vous rendre compte que vous avez au moins la chance de tenir sur vos deux cannes encore.
Ouais.
Et sincèrement, Nathalie, ça peut vraiment vous remettre les idées... en place, quoi, parce que je sens évidemment que vous êtes très affectée. En plus de ça, vous êtes une femme, ça atteint votre, vous voyez, le côté féminin. Hein,
Ah oui, tout à fait, parce que comme je ne sors plus, je ne m'habille plus.
Oui, mais je comprends. Et donc, du coup.
Mais bon, ça c'est quand c'est négligeable, ça encore.
Mais bon, il faut que vous écoutiez, vous voyez, des personnes qui vivent un handicap qui est vraiment plus grave que le vôtre, pour l'instant, hein, puisque vous, ok, j'ai bien compris que c'était en plus très compliqué parce que vous n'aviez pas encore de certitude quant à l'aboutissement de tout ça. Mais ça serait bien de vous inspirer de ça parce que moi, je vais vous dire, je n'ai pas de handicap et ils m'ont inspiré aussi. C'est de jeunes gens parce que ils se battent, quoi, ils combattent et surtout ils transforment les choses. C'est-à-dire que le handicap qui est intervenu dans leur vie comme ça d'un seul coup, eh bien ils refusent que ça soit une fatalité. Vous voyez?
Je comprends ce que vous dites, Olivier, mais même en étant en fauteuil roulant, comme vous dites. Il se déplace.
Oui, bien sûr.
Vous comprenez? Est-ce que vous arrivez à comprendre ce que je vous essaie de vous expliquer?
Mais je comprends parfaitement ce que vous m'expliquez.
La force de caractère, je l'ai. Ça fait longtemps, je pense, que quelqu'un qui n'aurait pas le caractère que j'ai se tombe en dépression. Mmh. Je pense.
Vous n'êtes pas du tout en dépression, là, vous sentez?
Non.
D'accord.
Je pleure beaucoup. Mmh. Parce que je pleure, en fait, de ce que je ne peux plus faire.
Oui. Mmh.
J'ai 58 ans, vous vous rendez
compte? Oui, oui, oui. Vous êtes jeune.
Ouais. J'aurai 80 ans, bon. Après tout.
Mais vous savez, la kinésithérapie vestibulaire que vous faites, hein, visiblement, est très efficace. Ça, c'est ça, hein, que vous faites, visiblement. Hein.
Ce que je vais faire, oui, parce que j'ai pris rendez-vous, oui. Mmh. Oui.
Et on ne vous a pas détecté une sclérose en plaques?
Non, je n'ai aucune maladie, non.
D'accord.
Je vous assure, Olivier, on m'a tout fait, tout.
D'accord, mais tant mieux, tant mieux, tant mieux.
À la limite, j'aurais presque préféré, vous voyez, parce qu'au moins, j'aurais eu quelque chose à faire. Vous voyez, dans ma tête, j'aurais eu quelque chose à faire. Et là, je ne peux rien faire.
Oui.
C'est très compliqué.
Oui, oui. Mais essayez ce que je vous ai dit. Essayez d'aller voir sur YouTube. Ça peut vous inspirer, je vous promets. Ça peut vous inspirer. Parce que, oui, il se déplace en fauteuil, bien évidemment, vous avez raison, mais c'est quand même... Il y a une perte aussi de...
Ah, bien sûr, une perte d'autonomie.
Mais oui, ça, capacité des mains aussi, pour certains.
Mais bien sûr, oui. Mais je sais très bien que je ne suis pas... comment dirais-je? Dans la pire des situations.
Non. Mais je comprends que ça vous ait complètement changé
votre vie. Mais en ce qui me concerne, oui.
Voilà. Oui, ça fait basculer votre vie du jour au lendemain.
Ça fait basculer ma vie, tout à fait, oui. Parce que tout est parti un peu en live, quoi. Mmh. C'est, je vous dis,
Ah, mais je comprends. Enfin, bon. Écoutez, en tout cas, n'hésitez pas à nous redonner des nouvelles d'ici quelques semaines, quelques mois, ma chère Nathalie.
Ouais.
Courage à vous, parce que vous en avez, hein, je le sens. Vous êtes quelqu'un qui a un caractère bien trempé. Et il en faut, hein, du courage pour affronter une situation comme celle-là. Hein,
oui, très bien.
On vous embrasse.
Là, moi aussi. Et je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté.
Je vous en prie.
C'est vraiment très gentil de votre part.
Je vous en prie. Bonne soirée, Nathalie.
Merci beaucoup, Olivier.
Bonsoir.
Bonne soirée à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Venez vous confier à Olivier Delacroix sur Europe 1.
Bonsoir Joël.
Oui, bonsoir Olivier. Ben, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois, j'avais raconté à l'antenne que, ben, en effet, le trek en haute montagne m'avait sauvé de beaucoup de choses, de la dépression, et que j'avais trouvé, une raison de vivre et que pour moi c'était vital d'aller dans des régions où des montagnes de très hautes montagnes se profilaient.
Oui. Et donc qu'est-ce que vous avez trouvé en montagne qui vous a sauvé? Redites-nous.
Ouais, ah ben on va dire que je pense que j'ai trouvé le calme, un peu de sérénité.
Il y a le dépassement de soi-même quand même aussi, non, je suppose?
Oui, bien sûr, parce que de toute façon, vu ce que j'ai réalisé sur ce trek, franchement, je peux vous dire que j'en suis assez étonné, parce que je vais vous raconter tout ça, mais il y avait quand même une partie de l'anxiété, parce que monter à plus de 5000 sur plusieurs journées, je pense que déjà c'est pas permis à tout le monde, hein, c'est évident. J'ai quand même bien préparé tout ça parce que j'étais très motivé. Mmh. Et franchement,
ça se prépare comment d'ailleurs un trek comme ça, le fait de devoir monter à 5000 mètres.
Ça se prépare par des marches dans ma région, quoi. Voilà. Après, je monte pas très haut puisque c'était l'hiver et tout, donc mais quand même. Je me suis quand même forcé à en faire une ou deux par semaine. à peu près 15 kilomètres, entre 800, 1000, 1200 mètres de dénivelé. Mmh. Voilà. De toute façon, la rando, la marche en haute montagne, je pense que c'est essentiellement basé sur la résistance, l'endurance, vous voyez. C'est pas une question de performance. J'arrive, il y a des jours où je grimpe très bien, il y a des jours où ça va être un peu plus compliqué, voilà. Mais j'avais quand même j'étais confiant sur le fait que j'avais quand même un certain entraînement en moi, voilà.
D'accord.
Et que j'étais prêt. Et surtout, si vous voulez, c'est que, vous l'avez dit la dernière fois, que j'avais vraiment très envie de faire ce trek aux grandes bases de l'Everest et autour de l'Everest. Et moi, contrairement à 99% des gens arrivent à Katmandou, prennent un vol pour Lukla, qui est une petite bourgade à 2800 mètres d'altitude, et vont effectuer ce trek au camp de base de l'Everest et à un endroit qui s'appelle Kala Patar, ça veut dire la roche blanche qui permet de monter à 5550 mètres et d'avoir le lever du soleil sur l'Everest. Mais moi, du coup, quand j'avais le temps, j'avais un mois, je suis parti de Jiri, qui est une petite ville, une petite bourgade à peu près à moins de 200 kilomètres de Katmandou. Voilà. Et si vous voulez, j'ai repris exactement le même tracé que Hilary, sœur Edmond Hilary, avec le Sherpa Tanzing, avait effectué en 1953, vous voyez. Et donc, ça m'a permis, en fin de compte, d'avoir une semaine complète pour m'acclimater. C'est-à-dire que j'ai passé la première semaine en faisant à peu près 15 km par jour, 1000 mètres de dénivelé négatif, 1000 mètres de dénivelé positif. Ça faisait, voilà, c'était très physique, à peu près 7 heures de marche et tout. Et quand j'ai attaqué la haute montagne à partir de 4000, je n'ai absolument pas du tout éprouvé le moindre souci avec le mal aigu des montagnes, parce que mon corps s'était bien acclimaté.
Ah oui, incroyable. Puis voilà. Vous avez quand même croisé des Sherpas là-bas, des Népalais, ça apporte quelque chose,
oui.
Ça aussi, non?
Voilà, mais alors ce qui était bien avec cette première semaine, c'est que, comme je vous ai dit, vu que 99% commence à Lukla, en fin de compte, il y a très peu de monde. Il y a très peu de monde, donc c'était le calme, la tranquillité. Le soir, vous vous arrêtez dans des lodges, des guest houses. Voilà, les prix sont très corrects. Je mentirais au début, je mentirais pour 10-12 euros par jour. Voilà, la nourriture, l'hébergement. Internet est encore gratuit, recharger son portable également. Il y a juste à payer pour la douche chaude qui coûte 200 roupies, c'est-à-dire 1,40 €.
Voilà.
Mais après, quand vous rejoignez donc le sentier principal qui part de Lukla, voilà, vous arrivez à une bourgade qui s'appelle Namche Bazar, qui est, pour résumer un petit peu, on pourrait dire que c'est le Chamonix du Mont-Blanc.